You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Eh bien, le plaisir d'avoir Nathanaël Bloch, qui est le spécialiste de la communication, qui est à nouveau dans les studios de Radio SBS pour nous parler de l'actualité politique australienne. Bonjour à vous, Nathanaël.
Bonjour Jean-Noël, merci de me recevoir dans les studios d'SBS.
Et cette semaine, on parle de ce comeback de Clive Palmer en politique avec un nouveau parti, pas vraiment un nouveau parti, parce que c'est United Australia Party qui a été créé à l'époque et un des membres les plus importants fut Robert Menzies à l'époque.
Oui, alors on parle du comeback de Clive Palmer, peut-être pour nos auditeurs, expliquer un peu qui est ce personnage. Il faut savoir que Clive Palmer, c'est d'abord un businessman australien. Il est à la tête d'une entreprise dans le charbon, dans le nickel et d'autres ressources. C'est une des plus grandes fortunes d'Australie. Je crois qu'il est dans les 200 premières fortunes d'Australie. Et alors, comme beaucoup de businessmen successful, Palmer, il a des hobbies à côté de son propre business. Il en a notamment deux, la politique et le sport. Alors, ce qui concerne le sport, il avait acheté un club de soccer sur la Gold Coast, le Gold Coast United Soccer, en 2008. Il a eu depuis quelques problèmes, mais voilà, il essaye de détendre un petit peu son influence et son soft power aussi à travers le sport. Et puis, évidemment, la politique, comme vous l'avez mentionné. Alors, Palmer, il avait rejoint, en fait, dans les années 70, les Nationals. Et il avait été directeur de campagne, il avait été porte-parole, notamment pour des state elections, toujours dans le Queensland. Et puis, il faut savoir que dans le Queensland, en fait, les libéraux et les Nationals, ils se sont alliés en 2008. Et puis, d'une certaine façon, pour Palmer, ça a causé quelques problèmes parce qu'il pouvait moins s'affirmer dans cette grande alliance avec un des deux partis majoritaires d'Australie. Et d'ailleurs, surtout, il avait refusé en fait les présélections. Il avait lui-même pas été présélectionné pour candidater à la députation. Et il avait fini en fait par former son propre parti, le Palmer United Party, pour les élections fédérales de 2013. C'est là où il a été en fait élu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il a même réussi à faire élire d'autres députés sous l'étiquette Palmer United Party, ce qui est assez intéressant. Alors, il faut savoir que son expérience politique n'a pas spécialement marqué les esprits parce que, par exemple, il a été extrêmement absent de ce qu'on peut appeler sa constituency, sa circonscription de Fairfax. Il passait plus de temps dans ses résidences secondaires du Queensland. Sur sa philosophie, on va dire sur son orientation politique, lui, elle était assez caricaturale. Il disait un système bipartisan, c'est dangereux pour la démocratie. Libéraux, Labour, c'est quelque chose de dangereux. Et puis, ça détruit la créativité de la nation. Il faut savoir que Palmer, c'est quelqu'un d'assez créatif parce que c'est aussi lui qui a voulu reconstituer l'épave du Titanic, projet qui a été évidemment avorté.
Abandonné, ouais.
Il avait cessé en fait toute activité politique en 2016 avec effectivité en 2017. Donc effectivement, c'est un comeback, mais c'est un comeback après une année d'absence. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il veut remonter. Il ne veut pas s'affilier à d'autres partis, mais il veut remonter de nouveau le Palmer United Party et il veut retourner aux affaires politiques dans une période où il y a beaucoup d'éléments d'incertitude. Donc, affaire à suivre sur le comeback de Clive Palmer.
On fait le point maintenant sur la tax reform et les derniers rebondissements.
Alors oui, la tax reform, Jean-Noël, c'est un vote au sujet des marginales, au sujet des impôts. Comme dans tous les pays, c'est une sorte de marronnier annuel. Ce qui est intéressant en termes de communication et de jeu politique, c'est qu'en Australie, c'est un véritable point d'équilibre dans les alliances entre partis. On l'a d'ailleurs vu en fait depuis la fin de la semaine dernière dans les tractations et les différentes mains tendues entre le Premier ministre Malcolm Turnbull et la chef du parti One Nation, Pauline Hanson, au sujet notamment des prélèvements dont doivent s'acquitter les multinationales. C'est-à-dire qu'un jour, elle va voter pour, un jour, elle va voter contre, un jour, Turnbull lui fait du pied, un jour, non. Et cette semaine, elle est importante parce que le Sénat va se prononcer et puis qu'après, il y aura la trêve, ou en tout cas les vacances d'hiver. C'est aussi un marqueur important, on en avait parlé la semaine dernière, dans l'opposition Turnbull-Shorten. Pourquoi ? Parce que Shorten, il a déclaré qu'il reviendra en fait sur ses allègements de charges qui concernent les entreprises, notamment celles qui gagnent entre 10 et 50 millions de dollars par an, et que sa position, elle pouvait encore évoluer en ce qui concerne ce qu'on peut appeler les small et medium business. C'est un débat sur les impôts des entreprises, mais c'est aussi un débat en fait sur ce qu'on considère comme les paliers de la taxation pour les personnes privées, pour les individus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, non seulement c'est un marqueur de l'opposition entre Turnbull et Shorten, mais on le voit même pour Shorten dans son propre camp des travaillistes. En fait, il est un peu accusé de faire cavalier seul et de prendre des décisions sans concerter son propre camp et tous les shadow ministers et cabinet. Donc c'est une affaire à suivre. On ne sait pas tellement entre les promesses électorales et ce qui va effectivement être mis en œuvre. Dernier point en fait intéressant avant la suite, c'est une analyse que j'ai vue dans The Age cette semaine qui reprenait des informations de l'année dernière. Elle expliquait un petit peu le squelette des Members of Parliament chez les libéraux et chez les Labour. Chez les libéraux, en fait, vous avez 50% des Members of Parliament qui ont travaillé dans des cabinets ministériels ou dans l'administration, et vous en avez 50% d'autres qui ont eu des fonctions, des postes à responsabilité dans le privé. Chez les Labour, chez les travaillistes, il y en a un peu plus de 50, il y a 55% qui ont travaillé dans des cabinets ministériels, dans l'administration. Vous avez à peu près 40% qui ont eu des rôles dans des syndicats et des organisations professionnelles et 5% d'autres fonctions. Donc en fait, The Age vient avec cette conclusion intéressante, c'est que vous avez la quasi-majorité des Members of Parliament qui vont statuer sur le sujet des impôts concernant notamment les individus et les small and medium businesses et qui n'ont aucun rapport ou qui n'ont jamais travaillé dans ce type d'organisation. Donc c'est quelque chose qu'on trouve en Australie, qu'on trouve aussi dans d'autres pays, mais voilà, c'est aussi un point d'achoppement et quelque chose sur lequel les députés, j'allais dire, doivent trouver des bons éléments pour justifier les politiques qu'ils veulent mettre en œuvre.
On fait le point maintenant sur ce nouveau modèle de financement des écoles privées et l'enjeu pour les écoles catholiques.
Alors oui, en Australie, il y a deux modèles d'écoles. Il y a les écoles publiques qui sont gratuites et il y a les écoles privées qui sont principalement des écoles privées catholiques payantes. Jusqu'à présent, le modèle, il était le suivant. En fait, les fonds reçus par les écoles privées, parce qu'il faut préciser que les écoles privées, ici aussi, reçoivent des fonds de la part du gouvernement. Donc, ces fonds, en fait, étaient fonction des caractéristiques géographiques. C'est-à-dire que telle zone géographique, tel quartier, recevait tant en fonction, d'une certaine façon, des revenus, de la richesse du territoire dans sa globalité. Il faut savoir juste une précision sur les fonds. C'est que 3/4 de l'argent vient des États et de ce qu'on appelle des territoires. 1/4 vient de ce qu'on appelle des Commonwealth Funding. La plupart de l'argent, évidemment, va aux écoles publiques et une petite part pour le privé. Mais en ce qui concerne le quart des Commonwealth Funding, la majorité de ce quart, lui, va pour les écoles privées. Donc, élément de contexte à avoir en tête. Et en fait, donc, ce modèle de financement, les écoles privées en fait catholiques se sentaient lésées. Pourquoi ? Parce que des parents qui habitaient dans des quartiers aisés en fait envoyaient leurs enfants dans des écoles catholiques d'autres zones qui étaient plus abordables. C'est-à-dire que ces écoles privées catholiques de quartiers aisés en fait non seulement elles recevaient moins de fonds et d'argent parce qu'elles étaient dans des zones géographiques qui étaient plus riches, et en plus elles perdaient un peu des élèves dont les parents préféraient en fait envoyer ces mêmes élèves dans des zones plus pauvres parce que les fonds reçus étaient plus importants. Donc là, en fait, en indexant la réforme, c'est indexer en fait les fonds reçus non pas sur la zone géographique, mais sur le revenu des parents. En fait, en indexant ces fonds reçus sur le revenu des parents, ça va permettre aux écoles catholiques non seulement de faire de la rétention d'élèves et de garder des élèves sur leur territoire, ce qui est important pour les écoles, puisque les parents quand même préfèrent envoyer les enfants dans une institution qui est proche du foyer. Mmh. Et deuxième point important, ça permet aussi à ces écoles catholiques de recevoir des fois plus de fonds, puisque ce n'est plus indexé de manière générale sur la zone, mais sur le revenu des parents.
Et maintenant, Nathanaël, un coup de projecteur sur Matthias Cormann, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il est d'origine belge, soulignons-le.
Oui, alors Matthias Cormann, journal, effectivement, il fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il fait beaucoup parler de lui, notamment sur le sujet de la tax reform. Il est assez proactif sur ce sujet et assez mis en avant. Donc, c'est le ministre du budget des finances du gouvernement Turnbull. Il est aussi à la tête des libéraux au Sénat. Matthias Cormann, il a pas mal fasciné les médias australiens pour son ascension éclair en fait dans le paysage politique. Quelques éléments juste biographiques. Il est né et a grandi en Belgique. Et en fait, il dit lui-même qu'il a commencé à apprendre et à pratiquer un bon anglais lors d'un séjour à Norwich en 93-94 quand il avait 24 ans. Il faut savoir que déjà très jeune, il avait une expérience politique puisqu'il était élu une sorte de conseiller municipal avec le parti social-chrétien en Belgique. Et puis il a visité Perth en 94, et c'est là qu'il a décidé.
Comme backpacker.
Peut-être c'était le coup de foudre avec Western Australia, et il a décidé d'y rester de manière permanente. Il a rejoint en fait quand il est arrivé le Parti libéral en Western Australia. Et puis d'abord, il a eu des fonctions au niveau du state. Il a été chef de cabinet, puis notamment senior advisor de l'ancien premier de Western Australia, Richard Court. Et puis après, c'est là où il a gravi les échelons, si j'ose dire. Et petit à petit, il a eu des fonctions au niveau fédéral en Western Australia, notamment auprès du ministre fédéral de la Justice, Ellison. Il faut savoir qu'après, il est devenu sénateur de Western Australia et il est décrit par ses collègues, notamment de Western Australia, j'ai lu ça dans un papier cette semaine, comme quelqu'un qui est très travailleur, qui est un très bon négociateur et qui est un fin tacticien. Donc, il est plutôt aimé de par ses collègues. Ce qui est intéressant avec Cormann aussi, c'est qu'il est assez pragmatique. Je vais vous donner deux exemples. C'est qu'il n'a pas eu peur d'afficher sa position et son opposition au same-sex mariage, donc au mariage des personnes de même sexe. Par contre, une fois que la consultation citoyenne a eu lieu et que le oui a été plébiscité de manière assez massive, il a évidemment été tout de suite en faveur d'un amendement
et, de la Constitution.
Voilà, exactement. Ouais. Et pour faire voter, faire adopter cette loi et ce projet de société qui avait été plébiscité par ses concitoyens australiens. Et un deuxième élément, là, d'un point de vue même plus politique en termes de pragmatisme, c'est que c'est quelqu'un qui est proche à la fois de Abbott et de Turnbull. Il avait soutenu publiquement Abbott, mais c'est véritablement Turnbull qui, ces derniers mois, lui a mis le pied à l'étrier et l'a rendu encore plus visible. Et on sait que le personnage de Abbott hante encore un petit peu la vie politique australienne. Et donc, Matthias Cormann a vraiment cette position à la fois proche de Turnbull et d'Abbott. Peut-être une dernière anecdote et un fait amusant, c'est qu'il a été Premier ministre pendant quelques jours, en tout cas, a acté comme Premier ministre pendant quelques jours en février 2018. Pourquoi ? Parce que Malcolm Turnbull était en visite d'État aux États-Unis à ce moment-là. Barnaby Joyce, lui, était empêtré dans le scandale dans lequel, d'ailleurs, il est encore empêtré en ce moment. Et il avait pris une période de ce qu'on appelle de vacances à ce moment-là. Et Julia Bishop, qui aurait dû être la troisième, elle était en tournée européenne. Donc Matthias Cormann a déjà agi comme Premier ministre, en tout cas avec la responsabilité de Premier ministre pendant quelques jours. Pourquoi je vous raconte cette anecdote ? Parce qu'il est pressenti, si les libéraux restent aux responsabilités au niveau fédéral, d'avoir peut-être encore plus de responsabilités. Donc affaires et personnages à suivre.
Nathanaël Bloch, merci à vous et à bientôt.
À très bientôt, Jean-Noël. Merci.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.